La lutte contre l'impérialisme et contre la guerre. Toute la situation mondiale et par conséquent aussi la vie politique intérieure des divers pays se trouve sous la menace de la guerre mondiale. La catastrophe qui s'avance pénètre d'angoisse dès maintenant les masses les plus profondes de l'humanité. La Deuxième Internationale répète sa politique de trahison de 1914 avec d'autant plus de conviction que l'internationale communiste, entre guillemets, joue maintenant le premier violon du chauvinisme. Dès que le danger de la guerre a pris un aspect concret, les stalinistes, distançant de loin les pacifistes bourgeois et petits bourgeois, sont devenus les champions de la prétendue « défense nationale », entre guillemets. Note de la donneuse de voix. À cet endroit, la traduction publiée sur marxiste.org présente une phrase supplémentaire. Les staliniens, expression qu'elle préfère à staliniste, ouvrez les guillemets, ne font d'exception que pour les pays fascistes, c'est-à-dire pour ceux où ils ne jouent eux-mêmes aucun rôle. Fermez les guillemets, fin de la note de la donneuse de voix. Donc, la Deuxième Internationale répète sa politique de trahison de 1914 avec d'autant plus de conviction que l'internationale communiste, entre guillemets, joue maintenant le premier violon du chauvinisme. Dès que le danger de la guerre a pris un aspect concret, les stalinistes, distançant de loin les pacifistes bourgeois et petits bourgeois, sont devenus les champions de la prétendue « défense nationale », entre guillemets. La lutte révolutionnaire contre la guerre retombe ainsi entièrement sur les épaules de la Quatrième Internationale. La politique des bolcheviques léninistes dans cette question a été formulée dans les thèses programmatiques du secrétariat international qui gardent encore maintenant toutes leurs valeurs. Ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, la Quatrième Internationale et la guerre, fermez les guillemets, 1er mai 1934, fermez la parenthèse. Le succès du Parti révolutionnaire dans la prochaine période dépendra avant tout de sa politique dans la question de la guerre. Une politique correcte comprend deux éléments. Une attitude intransigeante envers l'impérialisme et sa guerre et l'art de s'appuyer sur l'expérience des masses elles-mêmes. Dans la question de la guerre, plus que dans toute autre question, la bourgeoisie et ses agents trompent le peuple par des abstractions, des formules générales, des phrases pathétiques. Neutralité, entre guillemets, sécurité collective, entre guillemets, armement pour la défense de la paix, entre guillemets, défense nationale, entre guillemets, lutte contre le fascisme, entre guillemets, etc., etc. Toutes ces formules se réduisent, en fin de compte, à ce que la question de la guerre, c'est-à-dire du sort des peuples, doit rester dans les mains des impérialistes, de leur gouvernement, de leur diplomatie, de leurs états-majors, avec tous leurs intrigues et complots contre les peuples. La Quatrième Internationale rejette avec indignation toutes ces abstractions, qui jouent chez les démocrates le même rôle que chez les fascistes, honneur entre guillemets, sang entre guillemets, race entre guillemets. Mais l'indignation ne suffit pas. Il faut aider les masses à l'aide de critères, de mots d'ordre et de revendications transitoires propres à faire apparaître la réalité, à distinguer ce qu'il y a concrètement au fond des abstractions frauduleuses. Désarmement, entre guillemets. Mais toute la question est de savoir qui désarmera et qui sera désarmé. Le seul désarmement qui puisse prévenir ou arrêter la guerre, c'est le désarmement de la bourgeoisie par les ouvriers. Mais pour désarmer la bourgeoisie, il faut que les ouvriers eux-mêmes soient armés. Neutralité, entre guillemets. Mais le prolétariat n'est nullement neutre dans une guerre entre le Japon et la Chine, ou entre l'Allemagne et l'URSS. Cela signifie-t-il la défense de la Chine et de l'URSS? Évidemment, mais pas par l'intermédiaire des impérialistes qui étrangleront la Chine et l'URSS. Défense de la patrie, entre guillemets. Mais sous cette abstraction, la bourgeoisie entend la défense de ses profits et de ses pillages. nous sommes prêts à défendre la patrie contre les capitalistes étrangers si nous garrottons nos propres capitalistes et les empêchons de s'attaquer à la patrie d'autrui, si les ouvriers et les paysans de notre pays deviennent ses véritables maîtres, si les richesses du pays passent des mains d'une infime minorité dans les mains du peuple, si l'armée, d'un instrument des exploiteurs, devient un instrument des exploités. Il faut savoir traduire ces idées fondamentales en des idées plus particulières et plus concrètes, selon la marche des événements et l'orientation de l'état d'esprit des masses. Il faut, en outre, distinguer strictement entre le pacifisme du diplomate, du professeur, du journaliste, et le pacifisme du charpentier, de l'ouvrière agricole ou de la blanchisseuse. Dans le premier de ces cas, le pacifisme est la couverture de l'impérialisme. Dans le second, l'expression confuse de la défiance envers l'impérialisme. Quand le petit paysan ou l'ouvrier parle de la défense de la patrie, ils se représentent la défense de leur maison, de leur famille et de la famille d'autrui contre l'invasion de l'ennemi, contre les bombes, contre les gaz asphyxiants. Le capitaliste et son journaliste entendent par « défense de la patrie » la conquête de colonies et de marchés, l'extension par le pillage de la part « nationale » entre guillemets dans le revenu mondial. Le pacifisme et le patriotisme bourgeois sont des mensonges complets. Dans le pacifisme et même dans le patriotisme des opprimés, il y a des éléments qui reflètent d'une part la haine contre la guerre destructrice et d'autre part l'attachement à ce qu'ils croient être leur bien, qu'il faut savoir saisir pour en tirer les conclusions révolutionnaires nécessaires. Il faut savoir opposer hostilement l'une à l'autre ces deux formes de pacifisme et de patriotisme. Partant de ces considérations, la Quatrième Internationale appuie toute revendication, même insuffisante, si elle est capable d'entraîner les masses, même à un faible degré, dans la politique active, d'éveiller leurs critiques, de renforcer leur contrôle sur les machinations de la bourgeoisie. C'est de ce point de vue que notre section américaine, par exemple, soutient, en la critiquant, la proposition de l'institution d'un référendum sur la question de la déclaration de la guerre. Aucune réforme démocratique ne peut, bien entendu, empêcher par elle-même les dirigeants de provoquer la guerre quand ils le voudront. Il faut en donner ouvertement l'avertissement. Mais quelles que puissent être les illusions des masses quant au référendum, cette revendication reflète la défiance des ouvriers et des paysans pour le gouvernement et le parlement de la bourgeoisie. Sans soutenir ni épargner les illusions, il faut appuyer de toutes ses forces la défiance progressive des opprimés pour les oppresseurs. Plus croîtra le mouvement pour le référendum, plus tôt les pacifistes bourgeois s'en sépareront, plus profondément se trouveront discrédités les traîtres de l'internationale communiste entre guillemets, plus vive deviendra la défiance des travailleurs envers les impérialistes. C'est du même point de vue qu'il faut mettre en avant la revendication du droit de vote à 18 ans, pour les hommes et pour les femmes. Celui qui demain sera appelé à mourir pour la patrie, entre guillemets, doit avoir le droit de faire entendre sa voix aujourd'hui. La lutte contre la guerre doit devenir avant tout la, majuscule, mobilisation révolutionnaire de la jeunesse, fin de majuscule. Il faut faire pleine lumière de tous les côtés sur le problème de la guerre, tout en tenant compte du côté qu'il présente aux masses à un moment donné. La guerre est une gigantesque entreprise commerciale, surtout pour l'industrie de guerre. C'est pourquoi les 200 familles entre guillemets sont les premiers patriotes et les principaux provocateurs de guerre. Le contrôle ouvrier sur l'industrie de guerre est le premier pas dans la lutte contre les fabricants de guerre. Au mot d'ordre des réformistes, impôt sur les bénéfices de guerre, nous opposons le mot d'ordre, majuscule, confiscation des bénéfices de guerre et expropriation des entreprises travaillant pour la guerre, fin de majuscule. Là où l'industrie de guerre est « nationalisée », entre guillemets, comme en France, le mot d'ordre du contrôle ouvrier conserve toute sa valeur. Le prolétariat fait aussi peu confiance à l'état de la bourgeoisie qu'aux bourgeois individuels. Pas un homme, pas un sou pour le gouvernement bourgeois. Pas de programme d'armement, mais un programme de travaux d'utilité publique. Indépendance complète des organisations ouvrières du contrôle militaire et policier. Il faut arracher une fois pour toutes la libre disposition du destin des peuples des mains des cliques impérialistes avides et impitoyables qui agissent derrière le dos des peuples. En accord avec cela, nous revendiquons abolition complète de la diplomatie secrète. Tous les traités et accords doivent être accessibles à chaque ouvrier et paysan. Instruction militaire et armement des ouvriers et des paysans sous le contrôle immédiat des comités ouvriers et paysans. Création d'écoles militaires pour la formation d'officiers venus des rangs des travailleurs, choisis par les organisations ouvrières. Substitution à l'armée permanente, c'est-à-dire de caserne, d'une milice populaire en liaison indissoluble avec les usines, les mines, les fermes, etc. La guerre impérialiste est la continuation et l'exacerbation de la politique de pillage de la bourgeoisie. La lutte du prolétariat contre la guerre est la continuation et l'exacerbation de sa lutte de classe. L'apparition de la guerre change la situation et partiellement les procédés de lutte entre les classes, mais ne change ni les buts ni la direction fondamentale de celle-ci. La bourgeoisie impérialiste domine le monde. C'est pourquoi la prochaine guerre, par son caractère fondamental, sera une guerre impérialiste. Le contenu fondamental de la politique du prolétariat international sera, par conséquent, la lutte contre l'impérialisme et sa guerre. Le principe fondamental de cette lutte sera, ouvrez les guillemets, l'ennemi principal est dans notre, majuscule, propre, fin de majuscule, pays, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, la défaite de notre propre gouvernement, impérialiste entre parenthèses, est le moindre mal, fermez les guillemets. Mais tous les pays du monde ne sont pas des pays impérialistes. Au contraire, la majorité des pays sont les victimes de l'impérialisme. Certains pays coloniaux ou semi-coloniaux tenteront, sans aucun doute, d'utiliser la guerre pour rejeter le joug de l'esclavage. De leur part, la guerre ne sera pas impérialiste, mais émancipatrice. Le devoir du prolétariat international sera d'aider les pays opprimés en guerre contre les oppresseurs. Ce même devoir s'étend aussi à l'URSS ou à tout autre état ouvrier qui peut surgir avant la guerre ou durant la guerre. La défaite de tout gouvernement impérialiste dans la lutte contre un état ouvrier ou un pays colonial est le moindre mal. Les ouvriers d'un pays impérialiste ne peuvent cependant pas aider un pays anti-impérialiste par l'intermédiaire de leur gouvernement, quelles que soient à un moment donné les relations diplomatiques et militaires entre les deux pays. Si les gouvernements se trouvent en alliance temporaire et au fond incertaine, le prolétariat du pays impérialiste continue à rester en opposition de classe en face de son gouvernement et apporte un appui à son allié entre guillemets non impérialiste par ses méthodes, c'est-à-dire par les méthodes de la lutte de classe internationale. Ouvrez la parenthèse, agitation en faveur de l'État ouvrier et du pays colonial, non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre ses alliés perfides. Boycott et grève dans certains cas, renoncement au boycott et à la grève dans d'autres, etc. Fermez la parenthèse. Tout en soutenant un pays colonial ou l'URSS dans la guerre, le prolétariat ne se solidarise pas dans la moindre mesure avec le gouvernement bourgeois du pays colonial, ni avec la bureaucratie thermidorienne de l'URSS. Note de la donneuse de voix. Sur Wikipédia, consulté le 12 août 2020, à l'entrée Thermidor, on lit la chose suivante. Ouvrez les guillemets. Le nom de ce mois, Thermidor, est à l'origine du terme thermidorien, à la suite de la journée du 9 Thermidor an 2, 27 juillet 1794, entre parenthèses, au cours de laquelle les robespierristes furent renversés. Cette journée a donné deux noms propres, 9 Thermidor, entre guillemets, et Thermidor, entre guillemets, couramment employés pour désigner la seule journée du 9 Thermidor an 2. Par analogie avec cet événement, le mot Thermidor, entre guillemets, est parfois employé hors du contexte de la Révolution française pour désigner une autre contre-révolution. L'analogie connut notamment un succès certain chez les observateurs de la Révolution russe. Trotsky utilisa le mot Thermidor pour désigner la prise du pouvoir progressif par la bureaucratie stalinienne en Russie dans les années 20, qu'il assimilait à une contre-révolution. Et ce mot est parfois utilisé par les trotskistes pour désigner ce moment historique, selon l'analyse qu'en faisait Trotsky. Fermez les guillemets. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, tout en soutenant un pays colonial ou l'URSS dans la guerre, le prolétariat ne se solidarise pas dans la moindre mesure avec le gouvernement bourgeois du pays colonial ni avec la bureaucratie thermidorienne de l'URSS. Au contraire, il maintient sa complète indépendance politique aussi bien envers l'un qu'envers l'autre. En aidant une guerre juste et progressive, le prolétariat révolutionnaire conquiert les sympathies des travailleurs des colonies et de l'URSS, affermit ainsi l'autorité et l'influence de la 4e internationale, et peut aider d'autant mieux le renversement du gouvernement bourgeois dans le pays colonial, de la bureaucratie réactionnaire en URSS. Au début de la guerre, les sections de la 4e internationale se sentiront inévitablement isolées. Chaque guerre prend les masses populaires à l'improviste et les pousse du côté de l'appareil gouvernemental. Les internationalistes devront aller contre le courant. Cependant, les dévastations et les maux de la nouvelle guerre, qui, dès les premiers mois, laisseront loin en arrière les horreurs sanglantes de 1914-18, auront tôt fait de dégriser les masses. Leur mécontentement et la révolte de celles-ci croîtront par bonds. Les sections de la 4e internationale se trouveront à la tête du flux révolutionnaire. Le programme de revendication transitoire prendra une actualité brûlante. Le problème de la conquête du pouvoir par le prolétariat se dressera de toute sa hauteur. Avant d'épuiser ou de la noyer dans le sang, le capitalisme empoisonne l'atmosphère mondiale par les vapeurs délétères de la haine nationale et raciale. L'antisémitisme est maintenant une des convulsions les plus malignes de l'agonie capitaliste. La divulgation impitoyable de tous les préjugés de race et de toutes les formes et nuances de l'arrogance nationale et du chauvinisme, en particulier de l'antisémitisme, doit entrer dans le travail quotidien de toutes les sections de la 4e internationale comme le principal travail d'éducation dans la lutte contre l'impérialisme et la guerre. Notre mot d'ordre fondamental reste, ouvrez les guillemets, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », fermez les guillemets.